France Culture.
Bonjour Pascaline Lebeltier.
Bonjour.
On vous retrouve pour le quatrième épisode consacré à l'expérience du restaurant. Après l'éloge du goût dans l'épisode 3, je voudrais qu'on revienne à votre parcours de sommelière. Et en particulier, on vous a laissé après cette révélation, cette épiphanie du Château Yquet 1937, où vous avez décidé de vous lancer vraiment dans la sommellerie. Vous disiez que vous aviez dû trouver des endroits où apprendre, et en particulier... Vous êtes devenu apprenti, le premier restaurant pour vous, ça a été celui-là, ça a été l'Auberge Bretonne, un restaurant 2 étoiles au guide Michelin, tenu par le chef Jacques Torel. J'aimerais bien que vous nous parliez d'abord de cet homme, Jacques Torel, et puis de ce que vous y avez fait. Parce que le restaurant de Jacques Torel, en particulier la cave de Jacques Torel, voire la bibliothèque de Jacques Torel, ça n'est pas n'importe laquelle.
Oui, Monsieur Torel, je lui dois vraiment énormément. Hein. Sans Monsieur Torel, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, ou je ne serais pas à New York, je pense. Lorsque j'ai décidé de devenir apprenti, il a fallu que je trouve un maître de stage, parce que le diplôme s'obtenait par l'alternance. Et effectivement, j'ai envoyé des CV pour essayer de trouver un apprentissage, et j'ai eu très peu de réponses du fait de mon parcours. Et une des rares personnes qui m'a répondu a été Monsieur Torel. Et donc j'y suis allée, et je suis arrivée dans ce petit village La Roche-Bernard, dans le sud de Morbihan. Et là, j'arrive dans cette magnifique maison traditionnelle au cœur du village, sur la place, que Monsieur Torel et sa femme avaient rénovée. Et je vois une personne vraiment assez imposante, vraiment un peu ce chef, comme on peut l'imaginer, dans sa très belle veste blanche, qui m'accueille dans le petit salon, dans l'entrée de cette maison, cette vieille maison historique bretonne. Et là, on commence une conversation, il me montre la carte des vins. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les cartes des vins en ligne. Hein, et là, je vois 150 pages, une espèce de grimoire. Je me dis, oh là là, il commence à me demander si je connais un peu les vins. Alors moi, je dis... un petit peu, pas vraiment, bref. Et la conversation, en fait, dévie assez rapidement sur la littérature et sur les livres. Et là, il me dit, ok, très bien, vous savez, j'aime beaucoup les livres. Je dis, écoutez, moi aussi, je sais, c'est pour ça que vous êtes là. Très bien, très bien. Et après, on fait le tour de l'auberge, je rencontre la chef sommelière, une jeune femme très talentueuse, l'assistante chef sommelière, une autre jeune femme. Donc, Monsieur Torel avait dans son équipe de sommeliers, en fait, ce n'était que des femmes. Je dis, oh, c'est chouette, c'est des femmes. Alors, à l'époque, il y en avait déjà très peu, mais... Après, on descend, et il y avait la cave sous le restaurant, et la cave sous le restaurant, c'est 2 courts de tennis. Hein. Dans un premier escalier, on a cette cave, et je commence à voir des casiers, et des casiers, et des casiers de bouteilles. Et la première allée, deuxième allée, je dis, c'est bon, c'est fini. Et en fait, non, une autre petite cave voûtée, je me dis, c'est pas possible. Et on continue, et à un moment donné, on est devant une grille. Je me dis, là, c'est bon, on va remonter, il y a un escalier. Voilà, la surface des boîtes partout, des caisses de bois, je vois Ikem, je vois des noms, je dis, c'est pas possible. Et enfin, on remonte de l'autre côté, je dis, c'est quoi? Et voilà, il me dit, bon, écoutez, je vais réfléchir. Je monte dans ma voiture, je rentre, j'ai un autre entretien dans la journée, un peu plus au sud, du côté de Nantes. Là, ça se passe vraiment pas bien. On me dit que de toute façon, je serai jamais sommelière. Je dis bon, voilà, une journée, il faut que je continue à chercher, quoi. Je me suis dit. Et je pense le lendemain ou le surlendemain, je reçois un message de Monsieur Torel. Il me dit, écoutez, voilà, je vais vous prendre. Je vais vous dire tout de suite, j'ai pas besoin de vous. On a déjà l'équipe. Mais si vous êtes intéressé aussi pour m'aider à regarder un petit peu ma collection de livres de cuisine, sachez que je suis d'accord pour vous prendre en apprentissage. Et moi, j'ai sauté de joie et je me suis dit, c'est pas possible. Et la semaine d'après, je commençais à l'Auberge Bretonne, dans cet établissement où je n'avais pas compris du tout la qualité de la carte des vins avec laquelle j'allais travailler. J'avais vraiment, en fait, j'étais à ce point novice et innocente. Je savais juste que je voulais travailler dans le vin, mais aucune idée. Et l'année a commencé.
De fait, c'est l'une des plus belles caves de France. Il a 45 000 bouteilles.
Oui, absolument, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Torel a vendu il y a quelques années, mais c'était vraiment l'une des plus belles caves de France, hors Paris. Alors, pas forcément la cave la plus médiatisée, par rapport à d'autres grands étoilés, la Bretagne étant un peu quand même excentrée, et c'était pas forcément l'ouest de la France n'a jamais été la région la plus étoilée, donc c'est, contrairement à l'axe un peu oriental, quand vous partez de Paris jusqu'à la Côte d'Azur, il y a beaucoup d'étoilés, donc beaucoup plus de gens qui passent, de passage et tout. Monsieur Torel a constitué une des plus belles caves de France, un petit peu seule sur l'ouest de la France, et il a constitué tout seul, et il a été lui-même créé sa cave, en fait. Ça fait partie de ces chefs cuisiniers qui ont vraiment un amour du vin quasi immédiat. Et il me racontait qu'il partait en deux chevaux avec sa femme lorsqu'il fermait le restaurant pour aller visiter les domaines et acheter directement. Et donc, une cave faite par amour du vin, en connaissant personnellement tous les vignerons, une cave très sélective, avec vraiment des affinités et un respect pour les grandes icônes françaises. Et une cave, en fait, où il y avait aussi un respect du temps. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de vin en vieillissement. Et sur la cave, il y avait vraiment, sur la carte des vins, vous pouviez voir vraiment présent, mais il fallait au moins 4, 5, 6, voire 10 ans de garde avant que Monsieur Torel pense que le vin soit prêt à boire. Donc, c'était vraiment une cave un peu à l'ancienne, fantastique, et où il y avait beaucoup de vignerons. C'est-à-dire que les vignerons venaient s'arrêter. Il organisait chaque année plusieurs dîners vignerons où il invitait des vignerons à venir. Moi, deux mois après mon arrivée, j'étais en train de servir parmi les plus grands vignerons de France. Et ma chef sommelière étant aussi à ce moment-là à mi-temps, l'apprenti sommelière étant partie, je me suis retrouvée assez rapidement seule sommelière en salle sur certains services de la semaine. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne très, 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 très vite beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et Monsieur Torel m'a incroyablement encouragé, il m'a ouvert toute sa bibliothèque et en fait il a une des plus belles collections de livres de gastronomie de France, sans doute d'Europe probablement. C'est un très grand collectionneur avec des livres, des originaux, et il m'a immédiatement donné accès à tous ses livres sur le vin et voilà, donc des services dans ce... C'était pas un très grand restaurant, on faisait des midis et des soirs. Et le soir, à la fin du service, il était d'accord pour que je vienne le voir. Je lui ai dit, écoutez, alors c'était quoi ce... Je ne connaissais pas, c'est quoi les amoureuses à Chambol-Musigny? C'est quoi comme vin? J'ai servi ça, c'est quoi? Et il prenait le temps le soir avec moi de m'expliquer les vins. C'était juste incroyable. Donc là, il dormait sur place, en fait, il habitait à l'auberge. Moi, j'avais une petite maison, un petit appartement pas très loin. Et voilà, il était 1h du matin, la fin du service, et le... Et il me prenait avec lui, il m'expliquait. Et très rapidement, on a eu des moments incroyables. J'ai eu cette chance de servir donc Monsieur Torel. Et il y avait le chef Piège, Jean-François Piège, qui était un ami très proche de Monsieur Torel, qui était venu un vendredi soir. En fait, il fait le service à Paris et il était descendu pour passer le week-end en Bretagne. Et il y avait aussi Olivier Poussier qui était présent. Olivier Poussier, c'est un des plus grands sommeliers français. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Les meilleurs sommeliers du monde, une culture des vins exceptionnelle.
Le dernier, je crois, à cette date, hein, parce que la France n'a pas remporté le concours depuis 2000. C'était lui le dernier, non ?
Absolument. Olivier est le dernier. Voilà, et c'est le directeur du comité technique aujourd'hui du Mondial. Quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et donc, Olivier Poussier était là. Alors, moi, j'étais en train de trembler. Je connaissais, voilà. Monsieur Piège. Et Monsieur Torel, Monsieur Chef Piège, ils se sont mis en cuisine. Il était super tard. Ils se sont mis en cuisine, tous les deux, vraiment, minuit, a commencé à se faire. Il me dit, Pascaline, vous allez rester. Je suis la seule là, vous allez rester, vous allez faire le service. Alors il a été demandé de chercher des bouteilles à la cave. Moi, je commence à voir des choses, des bouteilles, des vieux Guigal, des années 70, enfin des... magique. Donc voilà, ils sont en train de manger, moi j'écoute derrière, je regarde, il me faut un peu goûter les sauces. Et à la fin, il était à peu près 1h30 du matin ou 2h du matin, on était en petit salon, il se pose, et Olivier Poussier avait apporté une vieille chartreuse. C'est un alcool exceptionnel français, dans les Alpes, mais à un moment donné, la chartreuse, elle a été faite en Espagne pendant une petite période de temps, et Olivier Poussier avait apporté une vieille chartreuse des années 30. Et il me voyait dans le coin un peu timide et tout. Il me dit, mademoiselle, venez, venez. Je dis, ouais. Et il me fait goûter une chartreuse des années 30. Et là, alors ça, c'est Ikem, Ikem 37. Et ce soir-là, il me fait goûter. Mais c'est quoi ça? C'est incroyable. Alors, cette soirée, c'était incroyable, incroyable, incroyable. Comment je n'arrêtais pas. Et il m'expliquait, il me regardait avec un petit sourire en coin. Et je me souviens, ce soir-là, c'était la fin de mon service. Je rentrais à Angers parce que j'avais un jour et demi de congé. Et donc, il était 2h du matin. J'étais très bien. J'avais goûté cette micro-dose de chartreuse. Et je me souviens rouler sur la route de la Roche-Bernard à Angers. J'étais seule sur l'autoroute avec ce goût de chartreuse en
vous
bouche.
Vous n'avez bu que très peu. Hein. Je rappelle que c'était avec grande modération.
J'avais recraché. C'était vraiment... Déjà, à l'époque, je ne buvais pas, en fait. Je me permets de redire que c'était vraiment des moments de professionnels. Et M. Torel était vraiment très, très carré là-dessus. Donc, voilà, je me permets. C'est vrai que, pour moi, ça me semble une évidence dans mon métier. Mais
il faut toujours le redire.
Voilà, donc j'avais craché, effectivement. Mais il y avait tellement d'aromatique. C'est resté gravé, quoi. Et ça fait partie de ces moments... incroyable. Là, je me suis dit, mais c'est exceptionnel. Et Monsieur Torel m'a immédiatement, j'étais même pas 2 mois dans le métier, vraiment innocente, avec une culture du vin quasi nulle, hein, m'a fait confiance. Et par la suite, m'a emmenée dans les vignobles, m'a emmenée à Ikem, parce qu'il avait une collection d'Ikem incroyable, des très très vieilles bouteilles même du 19e siècle. Et au bout d'un moment, les bouchons en fait s'abîment lorsque vous les conservez. Et donc, le château, à l'époque, était d'accord, s'il y avait les certificats et vraiment une traçabilité sur l'origine des bouteilles, pour reconditionner les bouteilles et remettre des bouchons de manière à ce qu'on puisse continuer à garder ces bouteilles, parce que Ikem peut se garder 100, 150 ans. Et donc, on a été avec M. Torel à Château Ikem, avec la collection d'Ikem, reboucher les vieilles bouteilles. Et M. Torel a cuisiné dans la cuisine de Château d'Ikem le midi, je me souviens encore, c'était un homard déglacé à l'Ikem avec petits pois de printemps et carottes fanes. Et j'étais à l'Ikem avec Monsieur Torel et la boucle était bouclée, quoi. Et ça a été, voilà, il m'a fait confiance, il m'a emmené avec lui et il m'a appris une façon de voir le monde magique. Grâce à lui, les portes se sont ouvertes et c'est toujours quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. On est toujours en lien. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un avec Madame Torel que je suis vraiment chanceuse d'avoir dans mon existence personnelle et professionnelle.
Il vous a propulsé dans ce monde de la sommellerie par la grande porte, propulsé aussi dans le monde du restaurant, parce que c'est un moment où vous découvrez un univers que vous ne connaissez pas. Le monde du restaurant, c'est particulier. La salle, même si vous aviez fait des stages, la façon dont les métiers sont répartis, ce que vous devez faire, ce que fait le chef, ce que fait le maître d'hôtel, c'est nouveau pour vous. Et donc, vous pénétrez dans cet univers-là. Et forte de cette expérience, en 2007, vous êtes embauchée par un groupe belge, le groupe Rouge Tomate. Défenseur, alors on dit SPE comme Sanitas per Escam, c'est-à-dire la santé par l'alimentation. Vous partez à Bruxelles. Changement complet de perspective.
Oui, donc je reste, effectivement, je découvre le monde du restaurant, je découvre les codes, je découvre cette magie, cette mise en scène, le travail du maître d'hôtel et toute l'équipe. On était une toute petite équipe chez Monsieur Torel et on était vraiment très impliqués. Il y avait encore du travail au guéridon, il y avait beaucoup d'art de la table, de la scène, de la salle. Et je découvre tout ce monde-là, je découvre aussi servir un client, lire le client. Moi, j'étais vraiment timide, vraiment. Je dis, je ne pouvais pas porter un plateau sans casser des verres. Enfin, vraiment une malaisance manuelle. Donc, j'apprends tout ça et je suis restée chez Monsieur Torel un certain temps, quasiment un an et demi. Mais après, j'avais déjà quasiment 26 ans et je me suis dit, je voulais voir le monde. Enfin, je voulais travailler à l'étranger. Et donc j'essaye, c'est très difficile de trouver quelque chose à l'étranger et par l'intermédiaire en fait d'un CV que j'envoie chez Monsieur Ducasse. J'arrive pas à travailler dans le groupe de M. Ducasse, mais une personne qui avait travaillé pour lui, voilà, voit mon CV et se dit, bah tiens, elle peut être intéressante. Et je me fais embaucher par ce groupe belge, effectivement, dans leur bureau parisien d'abord, pour ma double formation. Et c'est une des premières fois où vraiment je vois cette double formation qui devient... Alors déjà avec M. Torel, en fait, c'est pas vrai, avec M. Torel, j'ai été embauchée chez M. Torel parce que j'avais fait des études littéraires et de philosophie. Et là, rebelote, je me fais embaucher parce qu'en fait, j'ai un parcours universitaire et capable de faire de la recherche et avec mes DESS et un parcours qui commence à être un peu professionnel de praticienne du restaurant. Et Rouge Tomate m'embauche parce qu'ils voulaient développer un programme d'alimentation, de restauration qui était basé sur la santé et sur le bien-être et sur le développement durable. Et ils cherchaient des personnalités qui étaient capables de développer des recettes ou des protocoles tout en conversant avec des scientifiques, des nutritionnistes et capables aussi de produire des documents de travail. Donc j'avais un peu cette triple formation de recherche, de connaissances managériales de restaurant, et je commençais à avoir la connaissance du vin. Et donc je me fais embaucher dans le bureau parisien pour notamment développer tous les protocoles de sélection des boissons, de service des boissons, de présentation des boissons pour les restaurants, l'appliquer dans leur restaurant à Bruxelles. Et l'aventure commence. Donc je me retrouve entre Paris et Bruxelles en 2007. Je découvre Bruxelles. La ville me plaît beaucoup. Cette côté international de la capitale belge, en fait. Je découvre aussi un pays viticole comme la France et un pays non viticole comme la Belgique. Et subitement, les choix des vins se démultiplient parce que la Belgique étant très ouverte, je n'ai plus que du vin français, mais j'ai du vin de partout. Et je commence à m'intéresser beaucoup plus à toute cette question du lien entre santé et alimentation. J'avais déjà étudié personnellement, ça m'intéressait sur un plan ethnologique, anthropologique. J'avais lu des livres, notamment d'auteurs américains comme Michael Pollan, qui est très connu aux États-Unis. Mais là, je dois vraiment le faire avec une équipe de nutritionnistes. C'est-à-dire que j'ai vraiment avec moi des personnes, des scientifiques, des nutritionnistes et d'autres scientifiques qui ont été embauchés par ce groupe Rouge Tomate pour vraiment développer des protocoles qui sont vraiment basés sur la science de l'alimentaire. Et l'idée, c'est vraiment cette nutrition. Comment mieux manger ? Pas manger moins de calories, mais des meilleures calories, mieux les assimiler. Et comment est-ce qu'on peut vraiment, dans un restaurant, profiter de tous ces apports de la science pour créer une expérience de restaurant délicieuse, gourmande, sans compromettre la santé. Et c'est une époque exceptionnelle parce qu'en fait, je suis en lien avec des personnes qui m'expliquent l'impact des composés chimiques dans la viticulture ou dans l'agriculture sur l'été, les cafés, les vins, mais les spiritueux. Comment est-ce qu'on les pense ? C'est quoi les dernières recherches ? C'est quoi la base scientifique si on veut travailler avec des produits bio ?
Et donc ça vous aide aussi pour votre métier de sommelière.
Et ça, c'est directement lié avec mon métier de sommelière. La question du régionalisme, du locavore, la compromission entre l'empreinte carbone et la proximité. Et après, toute la question beaucoup plus physiologique de l'assimilation des différents nutriments, comment est-ce qu'on peut mieux les assimiler en buvant certaines choses, le thé, le café, les jus, voilà. Et donc je travaille là-dedans, donc c'est vraiment stimulant. Je recrée la carte de Bruxelles en accord avec ses principes, et en fait l'origine de mon embauche était d'ouvrir un restaurant à New York. L'idée du groupe avait immédiatement été de devenir international. Donc la première ville dans laquelle ils décidaient vraiment d'ouvrir à 100% le concept a été New York. L'idée était de créer un restaurant qui était vraiment un modèle sur le plan de l'architecture, du design, de l'embauche. Donc tout avait été pensé pour vraiment être un exemple de restauration vraiment engagé.
Modèle presque.
Modèle engagé. Donc ça a été fantastique parce que j'ai même participé au design, j'ai même participé à l'idée de consommation énergétique, le type de verre, d'où est-ce que venaient les verres, jusqu'à l'embauche. Voilà, c'était Emmanuel Verstraten, vraiment un visionnaire belge qui avait eu cette idée, et ça a été exceptionnel.
Et de fait, Pascaline Lepelletier, c'est vous qui êtes promue directrice des boissons du groupe à New York quand ils inaugurent leur restaurant. En 2009, je crois, vous déménagez en juin 2009 à Manhattan, donc aux États-Unis. Vous y passez 9 ans dans ce groupe, dans ce restaurant, où vous faites à la fois de la recherche et développement et de la sommellerie en salle. Mais entre-temps, vous avez quand même parfait votre apprentissage de l'art de la sommellerie en faisant une petite escapade au Georges V, n'est-ce pas, à Paris, sous la direction de pas n'importe qui, c'était le meilleur sommelier d'Europe, le vice-meilleur sommelier du monde, Éric Baumard.
Voilà, j'ai envoyé une lettre au Georges V.
Cette fois, ça a marché.
Cette fois, ça a marché. Alors, j'ai passé 4 entretiens avant de... Oui, absolument. Alors, je pense que Monsieur Baumard et Monsieur Hamon, qui est le bras droit vraiment du 5, ont regardé ma lettre avec probablement beaucoup de perplexité. Mais donc j'ai eu un entretien avec le premier sommelier, Vincent Deberger, puis avec Monsieur Hamon, puis avec le service des RH, puis Monsieur Baumard. Ils m'ont dit OK. Et donc je suis arrivée. Et ils m'ont permis en fait de faire des services avec eux. Donc je travaillais la journée au bureau et le soir j'allais au 5, et là j'ai découvert vraiment le monde des palaces, ces vins incroyables, et Vraiment, Monsieur Baumard est un homme exceptionnel, une volonté de faire. Il a eu beaucoup de choses dans sa vie qui ont fait qu'il a transcendé les épreuves. Il a cru à ses rêves, alors qu'on lui avait dit qu'il ne serait jamais pu être sommelier. Et voilà. Et donc, Monsieur Baumard et Monsieur Hamon m'ont vraiment aussi donné un sens de la rigueur, de l'envie, de l'excellence au plus haut niveau, mais d'une générosité humaine au plus haut niveau. J'ai pu voir que même dans ces palaces, avec ces conditions très particulières de travail, de restauration, il y avait l'humanité pouvait encore être présente et la sensibilité pouvait encore être présente. Et voilà, c'est des gens aussi avec lesquels je suis toujours en relation. Et voilà, Monsieur Baumard est venu me voir plusieurs fois à New York, Monsieur Hamon aussi. Et quand je peux les voir, les saluer au Georges V, j'y vais.
Donc dans ce groupe Rouge Tomate à New York, comme à la fois chef de la recherche et développement et sommelière en salle, vous y restez 9 ans. 9 ans au cours desquels, ben là, vous aussi, Pascaline Le Pelletier, vous faites des progrès, mais rapides, puisque les premiers succès arrivent assez vite. Vous êtes nommé évangéliste des vins nature par le Food and Wine. Time Out vous qualifie de nouvelle prophétesse des vins. Wine and Spirits vous distingue comme un des meilleurs nouveaux sommeliers, et je le mets au féminin parce qu'il ne l'avait pas fait, des États-Unis. 2013, c'est le New York Times qui fait de la carte des vins de Rouge Tomate l'une des meilleures de la ville. 2017, c'est The World of Fine Wine, la prestigieuse revue qui vous décerne et qui décerne au restaurant le prix de meilleure carte des vins du monde. Donc, le succès ne fait que croître. Vous quittez Rouge Tomate en 2018, année du doublé historique meilleure ouvrière de France et meilleure sommelière de France. Et là, vous rejoignez l'un des bars à vin gastronomiques les plus en vue de Manhattan, Racine New York. Une expérience qui dure pas très longtemps, mais quand même 2-3 ans, même peut-être un peu plus, parce que c'est seulement en 2022 que vous rejoignez Chambers. Entre Racine et Chambers, qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, Chambers, c'est l'évolution de Racine. Voilà. Donc oui, après 10 ans à Rouge Tomate, où j'ai vraiment eu la chance de... En fait, j'avais une liberté incroyable. Je suis restée aussi à New York et je suis allée à New York parce que Rouge Tomate me donnait les clés d'un établissement magnifique et en me faisant confiance à 100%. Donc Rouge Tomate m'a vraiment donné l'opportunité professionnelle qu'il m'aurait fallu peut-être 10 ans en France avant d'avoir. Et dans une ville qui commençait vraiment à exploser au niveau du vin. Il y a toujours eu du vin aux États-Unis depuis le début du 20e, mais New York a vraiment été une place importante. Mais ces années 2010, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, avec une économie extrêmement curieuse. Et donc moi, je suis arrivée à ce moment-là et j'ai pu développer une carte très particulière qui a trouvé un public et qui a été reconnue juste parce que j'étais très chanceuse d'avoir une éducation française tournée vers ces vins et de la mettre en pratique rapidement, en fait. Et donc ça a été remarqué et ça m'a permis de prendre confiance et de continuer dans cette voie. J'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai voulu prendre un break. Et après, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose avec d'autres amoureux du vin. Et l'une des meilleures adresses s'appelait Racine, créée par un groupe franco-américain. C'est un assemblage d'amoureux du vin français et américain. Et j'ai rejoint ce groupe, créé par David Lilly et Arnaud Tronche, enfin ce restaurant. Et ça a été fantastique, jusqu'à en fait la Covid. Et donc la Covid a vraiment marqué un temps d'arrêt sur l'activité dans le monde entier. Et donc, on a fermé Racine en 2021. Un des partenaires était parti. Et on a pris quelques mois avec mon general manager et en réfléchissant avec les investisseurs pour transformer Racine, pour le créer en restaurant qui était beaucoup plus adapté à l'économie post-Covid. Parce que New York a beaucoup changé avec la Covid. Et c'est ce qui est devenu, en fait, Chambers, où je suis aujourd'hui.
Voilà. Et j'aimerais bien qu'on termine cet épisode par votre travail actuel, Pascaline Le Pelletier, votre travail donc de sommelière dans ce restaurant de Manhattan qui est Chambers. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire ce restaurant et peut-être ce qu'on y mange?
Oui, absolument. Alors, c'est un petit restaurant. On a 55 places assises, juste sur une surface. C'est un restaurant qui est très ouvert. Vous rentrez, vous voyez tout. Vous voyez le bar, vous voyez la cuisine qui est ouverte, vous voyez les espaces de travail pour la salle. Vous rentrez, vous avez une grande table communale et après, ce sont des petites tables individuelles. C'est un restaurant qu'on a voulu très apaisé. Après Covid, on a travaillé avec des architectes, des designers pour vraiment le faire avec des couleurs très douces, des matériaux qui absorbent le son. Donc quand vous rentrez, en fait, c'est presque un peu étonnant parce que c'est assez nu, assez minimaliste. Il y a une espèce de calme et de transparence, c'est ce qu'on voulait post-Covid. On voulait vraiment instaurer cette idée de un peu de sérénité. On est dans une rue, on est très très proche du World Trade Center, on est dans Tribeca, on n'est pas très loin de la mairie, donc on est dans un quartier très actif, mais on est dans une rue un petit peu cachée, parallèle. Voilà, c'est pas la rue la plus touristique de la ville. Donc petit restaurant, un peu caché, il n'y a pas d'enseigne, un tout petit nom sur la porte. Et ce qu'on fait en fait à Chambers, on voulait vraiment un peu le restaurant de nos rêves, avec moi, mon chef partenaire John Carey, c'est mon general manager, le restaurant de quartier où vous avez envie d'aller manger toutes les semaines. On voulait vraiment.
Donc c'est accessible. C'est pas hyper gastronomique.
C'est hyper. Alors c'est gastronomique au sens où il y a des techniques de cuisson et de connaissances culinaires de mon chef qui est présente. Mais non, c'est très accessible.
Au sens où c'est bon, mais c'est pas au sens où c'est cher.
Voilà, on essaye avec toutes les limites évidemment d'être dans le sud de Manhattan, les contraintes financières d'être là-bas. Mais oui, on essaye d'être un restaurant raisonnable en prix, avec une cuisine de saison, de marché, une toute petite carte des plats qui change avec vraiment. Vraiment ce que chef peut trouver au marché, des liens très très forts avec les fermes et les producteurs locaux, cuisine de goût et cuisine de vin au sens où j'ai travaillé pendant des années avec des menus dégustation, avec vraiment un travail très précis d'accord mets et vins. Et là l'idée c'est vraiment d'avoir des plats délicieux sur la table et des plats gourmands qui moi me permettent en fait d'offrir aux gens une diversité de bouteilles et non plus d'essayer de marier absolument le plat avec le vin, mais de marier la bouteille avec le client.
Vous parlez de la diversité des bouteilles que vous pouvez proposer. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, avec votre chef sommelier Olivero Lucchietti, vous proposez une carte d'une trentaine de pays différents et à peu près 2000 références, sachant qu'en cave, il y a 4000 références. Hein. Donc oui. La diversité, elle est effectivement au rendez-vous. Je lisais les propos de Serge Dubs, qui est officier en Alsace et qui a été meilleur sommelier du monde en 1989. Il est au restaurant de l'Auberge de Lille. Et il dit « Le terme de sommelier a une connotation prestigieuse, mais on oublie souvent que notre spécialité est l'art de servir et de rendre les clients heureux. »
Oh, absolument, absolument. Monsieur Dubs, c'est un exemple et il a tout à fait raison. Moi, je suis d'abord une personne de restaurant. Je travaille en salle pour rendre mon client heureux. Et après, je suis une experte en vin. Il faut bien comprendre que si on veut vraiment, à mon avis, faire le métier de sommelier tel que je le vois incarné, il faut d'abord aimer les gens, aimer être en salle, aimer servir dans un restaurant, aimer faire partie d'une équipe de restaurant avec la cuisine. Et après, moi, mon plus, c'est que je peux aller plus loin dans l'expérience par mon expertise en vin. Mais je suis avant tout quelqu'un du restaurant. Et si des sommeliers, parfois, vont dans ce métier-là en pensant qu'ils vont juste vendre du vin pour vendre du vin, je peux quasiment être sûre que leur carrière va être courte, tout simplement parce qu'il va y avoir une frustration dans leur pratique. Il faut aimer les gens. Il faut vraiment vouloir écouter les gens. Moi, ce que je fais lorsque je suis en salle, le plus gros de mon travail, c'est vraiment d'écouter les gens. Et après, de trouver la bonne bouteille pour leur faire plaisir.
Il n'est pas question, Pascaline Le Pelletier, de rentrer en France ?
Pour l'instant, non. J'ai encore des choses à faire. Mais je rentre extrêmement régulièrement en France, en fait, pour le vin. Mais pour l'instant, je suis vraiment à Manhattan.
Merci. Merci beaucoup. On se retrouve pour l'épisode 5. Et on parlera de la vigne, du vin, du goût du vivant.
Avec plaisir.
À demain. C'était À Voix Nue avec Pascaline Le Pelletier, réalisation Yvon Croisier, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.